avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier Drapé. Bonjour.
Oui, bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs.
Vous allez nous parler de la crise agricole aujourd'hui.
Oui, tout à fait, c'est un sujet d'actualité. On a l'impression peut-être que l'urgence de la crise agricole s'éloigne un peu, mais en réalité, il me semble que l'incendie n'est peut-être pas totalement éteint. Et d'ailleurs, dans certains pays voisins, je pense à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, aux Pays-Bas, il y a toujours des manifestations, des blocages, donc de la part des agriculteurs qui sont victimes d'un modèle et d'un système qui doit, à mon avis, être revu, remis en cause, même si je ne sous-estime pas, bien sûr, la complexité du problème. D'ailleurs, il est assez surprenant que les agriculteurs aient dû recourir à de telles mesures, hein, de blocage d'autoroutes, de routes, pour se faire entendre, alors que depuis des mois, les panneaux d'indication des communes sont inversés pour alerter les gens. Mais à Paris, j'ai l'impression qu'on ne s'est rendu compte de rien. Et peut-être est-ce dû aussi au fait que finalement, les agriculteurs ne pèsent pas plus que 2% du corps électoral. Alors peut-être que nos politiques ou nos gouvernements ont tendance à considérer que c'est finalement quelque chose de tout à fait négligeable. Bon, eh bien, ils ont été peut-être un peu rattrapés par les réalités. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de tenter de revenir sur les causes et de cerner les causes de la crise agricole qu'on a vécue et qui probablement d'ailleurs n'est pas terminée. Peut-être qu'après le salon d'agriculture qui aura lieu dans 3 semaines, les problèmes vont de nouveau ressurgir si les mesures annoncées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des espérances. En tout cas, tentons de cerner un peu ou de revenir sur les causes de cette crise qui sans doute va perdurer. Le problème que beaucoup ont relevé, à juste titre, c'est le problème des marges excessives de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire d'ailleurs, en premier, au détriment des revenus des agriculteurs et des éleveurs. Il y a une enquête récente qui a été publiée il y a quelques jours, dont la presse a parlé, dans laquelle il apparaît que sur 100 euros dépensés en alimentation, il y a seulement 6,50 euros qui reviennent à l'agriculteur. 6,50 euros en moyenne sur 100 euros. Il est donc évident que les groupes industriels et la grande distribution imposent des prix trop bas aux agriculteurs. Ils le font malgré des lois qui ont été votées, la loi Egalim de 2018 renforcée en 2021 pour protéger autant que possible les marges et la rémunération des agriculteurs. Mais en fait, c'est un rapport de force et en réalité, l'industrie agroalimentaire et la grande distribution sont loin de respecter cette loi, le gouvernement ayant promis d'être beaucoup plus vigilant justement sur ce point. En tout cas, il y a donc ce problème effectivement qui est un problème majeur de fond, qui certainement est plus complexe qu'on ne pourrait le penser au premier abord, mais qui mérite d'être souligné. Et puis, il y a ensuite des problèmes qui relèvent davantage de l'échelon européen, dans la mesure où la politique agricole, aujourd'hui, est une compétence de l'Union européenne. Alors, bien entendu, c'est un peu simpliste aussi de considérer que l'Union européenne serait la seule responsable de la situation actuelle. On ne peut pas effectivement raisonner de cette manière, ne serait-ce que parce que les États membres ont leur mot à dire et ont en général approuvé la politique agricole commune actuelle. Et d'ailleurs, on ne va pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. La politique agricole commune est sans doute, par certains côtés, nécessaire, puisque un tiers du budget de l'Union européenne est consacré à la politique agricole commune et que 9 milliards d'euros, pour la France, sont répartis entre des agriculteurs et des éleveurs de différentes catégories dans notre pays. Néanmoins, On doit souligner d'abord que longtemps, pendant des années, la PAC a favorisé une agriculture productiviste, intensive, avec utilisation de pesticides et avec des conséquences de toutes sortes sur la situation des agriculteurs, souvent surendettés, sur l'environnement, très dommageable, même si depuis quelques années, effectivement, on a peut-être tourné la page de cette logique-là. Et puis le second problème que soulève la PAC, c'est que, bien sûr, elle a été mise en place pour faire face aux aléas climatiques, compenser des distorsions du marché, des distorsions de concurrence, mais elle met les agriculteurs dans une situation d'assistanat, alors que, quand on écoute les témoignages, on se rend compte que les agriculteurs, ils souhaitent, ou ils aspirent en tout cas à vivre, non pas de subventions, mais de leur travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des aides tout à fait légitimes et nécessaires. N'empêche, on entend ce genre de témoignages, par exemple, « Ce qu'on demande, dit un agriculteur, ce ne sont pas des primes, mais des prix rémunérateurs. » Et là, ça met le doigt sur un problème majeur que sont les accords de libre-échange, car l'Europe, qui était au départ un marché intérieur de la communauté économique européenne avec une préférence communautaire, progressivement a adopté une logique différente, libérale, capitaliste, le libre-échangisme mondial, qui peut avoir du bon, mais dans certaines limites. Autrement dit, l'Union européenne s'est mondialisée, elle s'est ouverte au monde entier, mais aussi à des concurrences planétaires qui parfois sont déloyales. En tout cas, la Commission européenne, pour l'agriculture comme pour l'industrie, n'a, semble-t-il, jamais été capable d'obtenir une réciprocité sur les normes et l'ouverture des marchés de ses concurrents. Alors ça pose un problème, tout cela, bien sûr, de concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que les importations communautaires de cultures, d'animaux, sont exemptées dans ces traités de libre-échange qui ont été conclus par dizaines depuis 20 ans, des règles auxquelles nos éleveurs ou nos producteurs, eux, sont astreints. Ça pose réellement un problème. Je lis un extrait du Figaro qui me paraît résumer la situation, le Figaro du 5 février, c'est-à-dire d'hier. « En s'imposant des normes contraignantes, sans exigence de réciprocité pour ses partenaires commerciaux, l'Europe est en train d'hypothéquer son avenir et de détruire sa croissance économique. Il faut interdire les importations de produits interdits de production en Europe, avec des sanctions contre les importateurs et les distributeurs qui ne les respectent pas. » Il est vrai qu'actuellement, nous importons, par exemple, on l'a dit souvent récemment, des poulets ukrainiens aux hormones, des cerises turques qui ont été récoltées avec des pesticides qui sont interdits chez nous. On importe du lait, du bœuf ou des moutons de Nouvelle-Zélande, c'est à 18 000 km, donc on ne peut pas ne pas réaliser qu'il y a des conséquences pour l'environnement, n'est-ce pas ? L'empreinte carbone quand on importe de 18 000 km de distance, mais aussi des conséquences pour notre santé, des conséquences sanitaires, car ces produits, précisément, échappent aux normes sanitaires et environnementales qui sont celles de l'Union européenne ou de certains des États membres. Il faudrait donc que les produits importés soient soumis aux mêmes normes que les produits français. Il faudrait renégocier les traités de libre-échange qui ont été conclus ces dernières années, vraiment interdire l'importation de produits qui ne respectent pas ces normes françaises ou européennes qui s'imposent à nos agriculteurs. Un autre point plus délicat mérite peut-être d'être abordé, c'est le problème de la transition écologique de l'Union européenne. Alors là, je sais que mes propos peuvent peut-être gêner, choquer, mettre mal à l'aise, mais il me semble que la transition écologique telle que l'Union européenne la conçoit depuis quelques années est effectivement dans une impasse. Pourquoi ? Alors je cite là aussi un article du Figaro du 5 février qui rappelle que l'Union européenne a décidé de s'imposer un modèle unique et punitif dans la transition climatique alors même qu'elle émet moins de 8% du carbone mondial contre 60% pour l'Asie et le Moyen-Orient. Autrement dit, l'Union européenne entend réduire d'ici 2030 de 50 ou 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 90, et atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050, mais en Europe, pas en Chine, pas aux USA, pas en Amérique latine, ni en Inde. En d'autres termes, ce qu'on appelle le pacte vert européen, le Green Deal, pose effectivement un problème, et même il en pose plusieurs. D'abord, il se traduit pour les agriculteurs par une avalanche de normes et de réglementations de plus en plus contraignantes, qui sont telles que certains jettent l'éponge. Elle se traduit aussi par des contrôles, une surveillance, parfois même par drone ou par satellite en temps réel, qui peut exaspérer un certain nombre de ces agriculteurs, comme on a pu l'entendre ces dernières semaines. Et puis, il y a aussi un second problème qui est que l'Union européenne, au nom de la transition écologique pour l'agriculture, est rentrée dans une logique de décroissance. Elle entend réduire la production agricole et ne recourir couvrir les besoins alimentaires de la population qu'aux importations dans les années qui viennent. Autrement dit, sacrifier notre agriculture et la souveraineté alimentaire pour des raisons effectivement prétendument environnementales. Et c'est pourquoi la PAC impose aujourd'hui aux agriculteurs de laisser au moins 4% et bientôt dans les années qui viennent 10% des terres arables en jachère. Il s'agit donc de diminuer notre production de viande et la production alimentaire. C'est une sorte de suicide forcé organisé, écrit Nicolas Bavrès dans le Figaro également, concernant l'agriculture. On le voit, en tout cas, les difficultés sont profondes, elles sont réelles. On comprend que le problème est loin d'être réglé parce qu'il y a tout un modèle à remettre en cause, des solutions structurelles et non pas seulement des mesures conjoncturelles à proposer. Et c'est d'autant plus fondamental, je reprends les termes de la supplique à l'Église des journées paysannes de l'an 2000, que dans l'alliance avec la création, le paysan façonne le paysage, écrit donc cette supplique, en tire sa nourriture et celle de tous ses frères et construit à chaque génération l'équilibre écologique, garant d'harmonie et de beauté pour toute la société. La vocation paysanne est de contribuer à la fécondité de la terre, d'accompagner la croissance, de participer à la culture de la vie.
Merci beaucoup Olivier Drapé, nous vous retrouverons le mois prochain. Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.